Bonsoir et bienvenue dans le temps du débat consacré ce samedi à la désobéissance, à écouter en direct sur France Culture, franceculture.fr et quand vous le souhaitez sur l'application de Radio France. Face aux restrictions, la désobéissance est-elle en train de monter? Le sujet est devenu un poncif dès qu'on parle de l'état de la société, du rapport des citoyens aux institutions politiques, scientifiques, médiatiques. La France serait dominée par la défiance. Les enquêtes internationales sont là pour le prouver. Les Français seraient, avec les Turcs et les Belges, les citoyens du monde qui font le moins confiance à leur justice. Avec les Grecs, les Tchèques et les Mexicains, ceux qui se méfient le plus de leur parlement. Avec les Portugais et les Turcs, ceux qui estime le plus souvent qu'il n'est pas possible de faire confiance aux autres. Pourtant, à l'épreuve de l'épidémie de Covid, la discipline et l'obéissance de nos concitoyens ont surpris les plus pessimistes et les plus forcenés des pessimistes. Pas de grands mouvements anti-masques comme en Allemagne, pas de fronde des citoyens comme en Hollande, mais le storytelling du Gaulois réfractaire a repris de la vigueur avec le prolongement des restrictions. Certains acteurs de la vie culturelle, des restaurateurs, des hôteliers, des saisonniers du ski ont appelé à passer outre les fermetures. Sur un tout autre sujet, des policiers ont de leur côté fait une grève du zèle très médiatisée. De là à parler de désobéissance civile généralisée, c'est ce que nous allons voir avec nos trois invités ce soir. Marion Worms, qui est philosophe des sciences et maîtresse de conférences à l'Université Paris 1. Elle a signé le chapitre « Sommes-nous trop crédules ?» dans l'ouvrage dirigé par Claudia Sénic, « Crise de confiance ». Albert Augien, qui est sociologue, directeur de recherche au CNRS, directeur de l'Institut Marcel Mauss à l'EHESS, éco-auteur en 2011 avec Sandra Laugier de « Pourquoi désobéir en démocratie ?» et enfin Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'IFOP, analyste politique, auteur de « L'archipel français ».
France Culture, le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
Désobéissance civile.
C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé. Beaucoup plus.
On fera plus de contrôle. Tac, et bah voilà, c'est pour le dernier. Voilà, monsieur.
Des contrôles d'identité, on arrête les prises d'initiative. On se contente uniquement de répondre aux appels 17. On aura une police au minimum, à l'image de la considération que M. Macron lui porte.
Alors j'ai appelé de façon modérée à la désobéissance. D'abord j'ai appelé simplement déjà les restaurants d'hôtel, mais laissez-les travailler. Je veux dire, aujourd'hui, dans les cas de Covid et dans les morts pour le Covid, on va rajouter les suicides de certains restaurateurs et de patrons de bars et de boîtes.
Il me reste 70 kilos de moules à passer, donc je me suis dit, j'ouvre aujourd'hui, et après on verra bien les conséquences par rapport à la police, je sais pas. On verra bien.
Elle ne verbalisera pas de fait, mais elle aura d'autres missions. Elle sera sur le terrain, elle n'est pas en grève, elle travaille. Sauf qu'elle sera au service des Marseillaises et des Marseillais, là où ils en ont besoin. C'est pas une crise de désobéissance, ça devient maintenant insupportable la façon dont le gouvernement fonctionne.
J'appelle à ce que les metteurs en scène à jouer leur spectacle partout où c'est autorisé pour le moment, à savoir dans les églises, dans les centres commerciaux. Et sinon, moi j'appellerai à ce que tous les théâtres rouvrent en même temps. Et on verra ce que fera l'État. À partir du moment où il y a une inégalité de traitement manifeste, j'appelle à rentrer en résistance.
Là, c'est de la désobéissance civile, c'est pas de la violence.
On assisterait donc depuis quelques jours à la montée d'une forme de désobéissance face aux mesures de restriction, aux fermetures des restaurants, des lieux de culture, comme on vient de l'entendre, et même de la part de policiers, je le disais, qui font la grève du zèle suite aux propos d'Emmanuel Macron sur la discrimination et les violences policières. Jérôme Fourquet, je le disais, vous aviez écrit, publié en 2019, L'archipel français, c'est aux éditions du Seuil, où vous analysiez justement cette forme d'atomisation et puis aussi de perte de confiance de la société française dans ses institutions. Est-ce que, face à la situation particulière que nous sommes en train de vivre depuis quelques mois maintenant, de la crise sanitaire et des réponses du gouvernement à cette crise sanitaire, en termes notamment de limitation des libertés publiques, est-ce que vous diriez qu'on peut sentir monter cette forme de désobéissance? Je rappelle que vous dirigez le département opinion de l'IFOP.
Écoutez, on a effectivement un certain nombre de professions qui sont vraiment très sous pression et qui risquent de tout perdre. Et donc, chez eux, on entend un certain nombre de cris de désespoir et des appels à la désobéissance, mais qui sont encore assez parcellaires. Hein, on le voit, il n'y a pas de grandes corporations de l'hôtellerie-restauration, par exemple, qui ayant pignon sur rue et qui auraient appelé à une désobéissance, un mouvement très organisé, tout le monde fait quand même un petit peu attention. Et quand on sort de ces professions très particulières, alors qu'ils représentent du monde, hein, il ne s'agit pas de minimiser leur poids, mais quand on regarde plutôt à l'échelle de la société ou à l'échelle de la population, on voit qu'on a une population française qui, aujourd'hui, est plutôt, si on devait qualifier son état d'esprit, dans une posture d'acceptation résignée des contraintes et des consignes qui sont données. Acceptation résignée qui se voit, par exemple, nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année, dans le fait que seuls 20% des Français que nous avons interrogés nous ont dit qu'ils passeraient Noël et le premier de l'an de la même manière que les autres années. C'est-à-dire qu'ils vont s'appliquer à eux-mêmes, dans leur sphère intime et familiale, un certain nombre de règles, les fameux gestes barrières et de règles de précaution. Alors, on ne sera pas tous 6 à table, bien évidemment, mais c'est intéressant de pointer que, y compris dans cette sphère très intime et personnelle, où personne ne pourra venir contrôler ce qui s'y passe, eh bien, beaucoup de nos compatriotes ont intégré la norme. Alors, ils ont intégré la norme, souvent sous l'effet d'un puissant adjuvant, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, qui est la peur, non pas du gendarme ou du policier, mais de la contamination, qui aide beaucoup au consentement dans la population.
Oui, évidemment. Albert Augien, donc je rappelle que vous êtes sociologue et notamment vous travaillez beaucoup sur la sociologie de la déviance, c'est-à-dire ce qui amène des individus ou un groupe d'individus à transgresser la norme dont vient de parler Jérôme Fourquet. Je vous pose un peu la même question. Est-ce que vous sentez, vous aussi, une désobéissance qui monte? Est-ce qu'elle est conjoncturelle? Est-ce qu'elle est structurelle en France, comme on le dit souvent?
Oh, vous avez rappelé l'image du couloir réfractaire. Bon, c'est une image. Par contre, la désobéissance, non, je serais plutôt de l'avis de Jérôme Fourquet, c'est-à-dire que il y a une grande colère, il y a de la protestation, mais en fait, on n'est pas à un degré. C'est, on se sert du terme désobéissance pour faire un peu peur ou un peu pression, mais la désobéissance, elle vient lorsqu'on a utilisé tous les recours qu'on peut avoir face à une réglementation, une loi qu'on trouve injuste. En gros, les mouvements dont on parle, les restaurateurs, la culture ou d'autres mouvements, essayent finalement de négocier avec les pouvoirs en place à partir effectivement de cette chose que Jérôme Fourquet a rappelé, qui est on se trouve devant une situation sanitaire délicate, et puis il n'y a aucune preuve du fait que cette situation sanitaire, c'est une fake news, hein, on voit bien que ça a l'air de marcher, donc il y a une peur contre laquelle on peut pas vraiment se révolter, on peut pas désobéir au virus, hein, c'est pas facile. Donc on se sert plutôt du terme désobéissance pour faire valoir une juste protestation, et on s'en sert aussi comme levier d'action pour essayer de faire bouger les choses en faveur des professions qu'on a. Mais encore une fois, on n'a pas vu, et même dans les extraits que vous avez rappelés, je crois que c'est Renaud Muselier ou Samia Ghali, qui ont commencé la première protestation en termes de désobéissance pour les restaurateurs à Marseille. Ils n'ont jamais dit qu'ils faisaient de la désobéissance civile. Ils ont été au tribunal pour essayer de faire remettre le décret, mais ils n'ont pas réussi. Voilà. Donc oui, il y a de la colère, il y a de la protestation. On se trouve encore dans un espace démocratique où les gens, avec cette idée qu'on s'oppose à un virus et pas à un gouvernement vraiment, on essaye de faire avancer les choses du mieux possible.
Mais, même si c'est vrai que ce qui a peut-être changé avec cette échéance du 15 décembre qui avait été donnée comme l'échéance de relâchement du second confinement, on va l'appeler second pour l'instant, espérant qu'il n'y en ait pas de troisième, Albert Augien, c'est que véritablement, voilà, on a vu monter beaucoup plus des protestations, vous l'avez dit, qui passent par des voies légales, comme par exemple le référé liberté déposé par un certain nombre de lieux culturels devant le Conseil d'État pour réouvrir les théâtres, notamment, un peu comme l'avaient fait les lieux de culte, d'ailleurs, lors du premier confinement. Marion Worms, vous êtes philosophe et vous travaillez justement sur ces questions de la confiance, ces questions aussi d'obéissance, de désobéissance. Même question, est-ce que vous insisteriez, vous, sur la grande obéissance ou la grande désobéissance des Français face à ce deuxième confinement et surtout à cette annonce de prolongement encore des restrictions?
Écoutez, là vraiment sur la question de la désobéissance, je me sens pas spécialement habilitée je me sens pas habilitée à avoir un avis autre que un avis particulièrement ou spécialement informé. Disons que sur la question de la confiance, c'est un petit peu une évidence que je vais dire, mais on est dans une situation d'incertitude généralisée à tous les niveaux où quand même le monde scientifique a, enfin, reconnaît et est contraint de reconnaître qu'il est face, enfin, que la part de l'ignorance domine largement la part des connaissances, même si on avance beaucoup. Donc il y a des incertitudes scientifiques, des incertitudes sur, donc, évidemment, donc scientifiques et sur les conséquences, enfin, sur les modes de contamination, sur les effets. Enfin, bon, j'ai pas besoin d'énumérer le nombre de choses que l'on ne sait pas sur ce virus, d'une part. D'autre part, des incertitudes aussi, évidemment, sur les conséquences économiques, sociales, du confinement. Enfin, donc il y a des incertitudes à tellement de niveaux, d'une part. D'autre part, des valeurs en jeu qui se, bon, lors du premier confinement, hein, c'était effectivement, il y avait l'idée de à tout prix la santé, enfin la valeur qu'on mettait en avant de manière incontestable était celle de la santé. On a vu ensuite, voilà, que les choses ont nécessairement évolué et qu'on a reconnu que il fallait, enfin, on le reconnaissait dès le début, mais je veux dire que c'est devenu quelque chose de manière plus explicite et claire, qu'il fallait faire mettre en balance plusieurs considérations et plusieurs inquiétudes. Si bien que, bon, moi, encore une fois, sur la désobéissance, je sais pas très bien comment vous répondre. Mais sur
peut-être
la
vous pouvez me répondre sur la confiance et cette articulation que vous avez particulièrement étudiée entre le doute, la méfiance, la crédulité, qui sont malgré tout au fondement de la capacité à obéir ou non aux directives d'un gouvernement qui prend des choix face à une situation incertaine, comme vous le dites, mais qui doit prendre des choix politiques et qui doit emmener l'adhésion. Donc voilà, il faut bien emporter sur le doute, sur la méfiance et peut-être miser sur la crédulité des citoyens.
Oui. Alors, en effet, donc c'est ce que je trouve particulièrement, enfin, remarquable et délicat dans la situation actuelle, c'est que, précisément, encore une fois, en raison de cette incertitude générale et multiple, la question de savoir en quoi il faut avoir confiance et ce qu'il faut croire pour bien agir est pas du tout triviale. Et je pense qu'elle est tranchée à aucun niveau et que donc évidemment, ce qu'on recherche, c'est l'obéissance des citoyens, le respect des gestes barrières, etc., etc. Donc effectivement, le gouvernement a beaucoup, notamment lors du premier confinement, a vraiment mis en avant la science, l'expertise scientifique. Il a marqué une révérence, enfin, il en a appelé vraiment aux experts scientifiques comme étant ceux qui allaient nous dire ce qu'on devait faire, lesquels experts scientifiques étaient bien obligés de reconnaître que malgré tout, il y avait une grande part d'ignorance et bon, ils ont reconnu, enfin, toutes les étapes, les masques d'abord, c'est pas indispensable, enfin, tout le cafouillage autour des masques et toutes ces choses-là. Ce que je voudrais, il me semble que le caractère délicat du fait de faire intervenir cette autorité, c'est joué, à mon avis, quelque chose de très compliqué quant à la question de l'autorité scientifique, précisément parce qu'à un moment où on en a appelé à l'autorité scientifique, on l'a présentée comme l'autorité à un moment donné à laquelle il fallait entièrement faire confiance, c'est à ce moment-là que les scientifiques eux-mêmes ont été contraints d'un aveu d'ignorance, ce qui a à la fois, il me semble, ébranlé la confiance qu'on pouvait avoir dans les scientifiques et dans un gouvernement qui recherchait une sorte de consensus scientifique qui ne pouvait pas y avoir à ce moment-là. Et en même temps, j'ai été frappée, mais ça c'est une observation vraiment personnelle, individuelle, donc je ne sais pas ce qu'elle vaut d'un point de vue.
On va la soumettre à la discussion.
Exactement. J'ai eu l'impression, pour un constat plus optimiste, que face à tous ces problèmes-là, et notamment, je pense, au moment de la rétractation de l'article dans The Lancet sur la chloroquine, j'ai eu l'impression que un effet positif de cette crise, c'est qu'il y avait une forme d'acculturation, en tout cas de prise de possession par le grand public, qui n'avait pas du tout, par une partie du grand public qui peut-être
n'avait pas forcément la conscience de ce qu'était le travail scientifique, la méthode scientifique.
Exactement. Et j'ai eu l'impression qu'il y a eu une prise de possession d'un vocabulaire.
Eh ben, écoutez, on va soumettre cette idée
relative à aller.
On va soumettre cette idée à Jérôme Fourquet qui est en face de moi.
Bonjour. Oui. Alors, moi, j'adhère assez à ce constat, effectivement. Les projecteurs ont été braqués sur les experts et les scientifiques, et les Français, dans un premier temps, ont été très déstabilisés par le fait qu'il y ait des voix discordantes qui se soient exprimées sur ce sujet. Les Français avaient l'habitude qu'il y ait des confrontations, des débats parfois assez virulents, des désaccords entre sociologues, entre économistes, sur ce qu'il faut faire pour lancer une économie, comment on réduit les inégalités, qu'est-ce qu'on fait sur la fiscalité, est-ce que par exemple l'effet de ruissellement fonctionne ou pas. Donc il y a des bon, mais il y a une relative méconnaissance du débat et de la du processus d'élaboration de la connaissance scientifique dans les sciences qu'on pourrait qualifier plus dures. Et donc nos concitoyens sans doute se disaient que deux personnalités en blouse blanche bardées de titres et de diplômes sur un plateau de télévision, quand on allait les confronter à une courbe de la progression de l'épidémie, diraient la même chose. Et à la grande stupeur de beaucoup d'entre eux, souvent des scientifiques en sont arrivés à des constats et des conclusions différentes. Alors ça a beaucoup troublé dans un premier temps. Et effectivement, on peut le voir positivement en termes d'acculturation sur la connaissance de la démarche scientifique, parce que les Français avaient aussi plus de temps de cerveau disponible, selon la formule consacrée. Et donc, ils étaient abreuvés via les médias d'échanges et de discussions entre spécialistes. Et petit à petit, ils ont, comment dire, une fenêtre s'est ouverte pour eux sur cet univers qu'ils ne connaissaient très peu, même si, encore une fois, la référence que vous faisiez à la polémique sur l'article de The Lancet, là encore, a aussi...
Alors rappelons que c'était un article qui montrait l'inanité, enfin que la chloroquine ne fonctionnait pas et qui a dû être retiré. On va pas rentrer dans la polémique. Il y a une excellente émission de la méthode scientifique de Nicolas Martin. Vous pouvez l'écouter, c'est sur France Culture. Vous trouverez le podcast sur l'application de Radio France. Et c'est une histoire très très compliquée. Mais voilà, le fait que The Lancet, qui est une revue de référence en médecine, ait dû retirer l'article, a donné du grain à moudre, on va dire, à ceux qui défendaient le professeur Raoult et l'efficacité de la chloroquine.
Alors, il y a eu ça comme conclusion, mais également le fait qu'une institution aussi référente que cette revue scientifique ait pu laisser passer, malgré son comité de lecture, manifestement une publication qui ne tenait pas la route. Donc ça a pas mal déstabilisé nos concitoyens. Et ces derniers se sont aussi pas mal appuyés, encore une fois via le truchement des médias, sur ce qui se passait à l'étranger, pour se faire leur propre opinion. Et ils ont vu qu'il n'y avait pas de recette miracle, que tout le monde avançait à tâtons. Et ce qui a pu... nourrir cette espèce d'adhésion un peu résignée aux mesures qui étaient prises en disant il n'y a pas de plan B, on voit bien qu'ailleurs ça ne fonctionne pas mieux que chez nous et donc il faut s'en remettre à ce qu'on nous propose.
Albert Ogier, une acceptation, une obéissance résignée, vous le diriez la même chose, face notamment à l'incertitude scientifique et donc à la nécessité de s'en remettre à des choix politiques, qui sont avant tout des choix politiques.
Oh, mais vous savez, d'abord, les choix politiques, chacun d'entre nous les fait au quotidien. On verra qui ira se faire vacciner, qui mettra un masque, qui n'invitera pas des gens à Noël. Donc, en gros, voilà. Et ça, c'est une réalité aussi dont il faut tenir compte. C'est que souvent, les politiques s'en sont remis aux populations en disant, voilà, en usant le « nous » et pas le « je », souvent, les gouvernants, en disant, c'est... entre nos mains, la solution, et c'est de plus en plus le cas, où les gouvernements essayent de s'allier et donc de justement faire appel à la confiance et donc essayent de ne pas être hautain, arrogant, décrété, qui savent tout sur tout. Donc voilà, on a vu le ton changer petit à petit. Donc à la fois c'est nous qui prenons les décisions et à partir de quoi prend-on ces décisions. Il y a un facteur qui est très important. Jérôme Fourquet, je pense, on a fait état, c'est la durée. C'est quand on a, au mois de mars dernier, c'était surprenant, on pouvait s'énerver, enfin tout le monde a bien accepté d'applaudir les médecins, les infirmiers, les aides-soignantes, il y avait un grand élan de solidarité, c'était absolument formidable, et puis après ça s'étiole, on voit que par exemple à la rentrée de septembre, en octobre, finalement les médecins, les infirmiers, c'était vraiment des oiseaux de mauvais augure, qu'on n'avait plus du tout envie d'inviter chez soi, et cette durée finalement, eh bien elle a donné raison aux gens qui disaient le virus a sa propre logique, sa propre réalité, et puis c'est finalement à chacun d'entre nous de prendre en charge ce problème-là. Je crois que c'est pas une question ici d'obéissance ou de désobéissance à des règles qu'un gouvernement donnerait. C'est effectivement, il faut en gros, que la population comprenne les mesures. Donc, par exemple, on prend le cas de la culture, on voit bien qu'il y a là encore un espace où les gens de la culture, en tout cas, ne comprennent pas pourquoi un avion ou un train serait...
Ah, on a perdu Albert Ogien, qui n'est pourtant ni dans un avion ni dans un train. Mais puisqu'il nous y a invité aussi par son intervention, peut-être qu'il faut réfléchir véritablement à la fonction de l'obéissance, de la désobéissance en démocratie, puisque finalement tout est réduit à une question de choix politique. Et c'était justement le sujet d'un livre de Frédéric Gros, qui est philosophe, et qui a écrit Désobéir. C'était chez Albin Michel Flammarion en 2017. Et voilà ce qu'il répondait sur la question à François Bunel, c'était à la Grande Librairie en 2017.
Je crois que ce que je recherche dans l'acte de désobéir, c'est aussi pas cette désobéissance systématique comme posture, mais ce moment de décrochage par rapport à l'obéissance qu'auraient ses racines dans la paresse, dans la lâcheté. Mais je crois que pour faire ce travail, il fallait pour moi interroger les styles d'obéissance, parce que obéir, ça se décline, il y a la soumission, il y a le consentement, il y a l'obligation éthique, je peux me commander à moi-même d'obéir, je peux obéir parce que je ne peux pas faire autrement. Donc ce que j'ai voulu vraiment dresser, c'est une stylistique de l'obéissance. Je crois que pour penser la désobéissance, il faut penser comment et pourquoi on obéit de manière aussi massive. Oui.
Pourquoi obéit-on d'une manière aussi massive? Je crois qu'on a récupéré Albert Ogien. J'en ai profité, Albert Ogien, pour diffuser cet extrait de Frédéric Gros qui parle de son livre Désobéissance et de la fonction, en fait, finalement, de la désobéissance en démocratie. Peut-être un mot là-dessus avec vous, Albert Ogien, puisque, comme je le disais, vous avez beaucoup réfléchi à cette question de la désobéissance civile, de la norme, du respect de la norme. Dans quelle situation sommes-nous si finalement on ne peut pas, on n'a pas cet espace de désobéissance?
Écoutez, ça a l'air tautologique et absurde ce que je vais dire, mais s'il n'y a pas lieu de désobéir, on ne désobéit pas. Il y a des circonstances, il ne faut pas désobéir tout le temps, constamment. D'abord, on le fait beaucoup, hein. Même quand on considère, par exemple, les mesures gouvernementales. Un des grands problèmes du gouvernement, comme je le disais tout à l'heure, comme la réponse à la Covid dépend de nous, si nous n'adhérons pas individuellement à ce qui est demandé, ça va pas marcher. Donc l'idée ici, elle est qu'il faut trouver un moyen d'associer les gens qui dirigent aux gens qui devraient normalement faire attention à leur santé et à la santé de leurs proches. Et on rappelle pas assez souvent qu'ici, la question, c'est une question de vie ou de mort. En gros, bien sûr, pas pour toutes les catégories de population, mais l'arrière-plan, de toute façon, même si un jeune se contamine et qu'il en a, ça lui est un peu égal, il va faire attention à ce que ses grands-parents ou ses parents ne soient pas affectés. Donc devant la vie et la mort, devant cet horizon-là, la désobéissance, je pense, elle a pas lieu d'être, en vérité. C'est tout simple, tout bête à dire. La désobéissance, c'est dans certains cas bien concrets où on vous oblige à faire quelque chose, où une autorité publique ou des êtres humains vous demandent de faire quelque chose que vous trouvez injuste.
Oui, mais justement, là, en l'occurrence, ce deuxième confinement, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire leur incompréhension des choix qui sont faits, des arbitrages. Donc, il pourrait y avoir la place pour la désobéissance.
Oui, mais vous voyez, de toute façon, on l'aurait vu s'il y avait eu des actions de désobéissance. Il y a des appels à la désobéissance, mais je pense que c'est un usage du terme et pas du mode d'action que ça représente, hein. C'est-à-dire, c'est très simple, hein. S'il y avait eu de la désobéissance, tous les restaurants devraient ouvrir ou toutes les salles de théâtre, comme je crois William Bourdon demandait à ce que ce soit fait. C'est-à-dire que voilà, on aurait là un acte de désobéissance avec en plus la police, comme vous le disiez au début, qui fait de la grève du zèle. On se serait trouvé dans un espace très très différent où la désobéissance existerait véritablement. Voilà, venez nous fermer. Or, c'est pas ce qu'on observe, hein. Moi, ça ne me dérangerait pas que tous les restaurants ouvrent demain, toutes les salles de spectacle. Mais on ne l'observe pas. Donc voilà, le sociologue que je suis doit prendre acte du fait.
Du réel, évidemment, et de la récurrence du réel. Marion Worms, peut-être sur cette cette question, une forme de dissonance aussi, presque dissonance cognitive entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, et ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire des appels à la désobéissance, mais on voit que les Français sont plutôt disciplinés, et inversement, on dit qu'il est important, et Jérôme Fourquet pourra le confirmer, dans les enquêtes d'opinion, on dit qu'il faudrait que tout le monde applique les règles, et individuellement, évidemment, on les applique pas tout à fait. Qu'est-ce qui se joue là dans ce mécanisme, selon vous?
Ouais, alors en fait, c'est amusant parce qu'au moment où, à propos de ce qui vient d'être dit sur la désobéissance, le fait qu'en fait, finalement, quand il n'y a pas de raison de, enfin, par défaut, on obéit, s'il n'y a pas de raison de désobéir, on désobéit pas. Il y a quelque chose, en fait, de similaire avec la confiance. Alors, je pense ici à la confiance que j'appellerais proprement épistémique, c'est-à-dire le fait de croire ce qu'on me dit, le fait que quand on me dit quelque chose, bah, par défaut, je le crois. Ça, c'est quelque chose qui est assez, enfin, c'est une thèse assez forte et assez incontestable.
Oui, sur la crédulité, la crudélité prime. Voilà.
Selon laquelle, par défaut, et c'est rationnel, enfin, il n'y a rien d'irrationnel à ça, par défaut, si quelqu'un me dit quelque chose, sauf raison particulière d'en douter, je le crois. Et c'est presque quelque chose qui est ancré en nous de manière assez fondamentale. Et au fond, pour rejoindre l'autre point, ce que vous venez de dire, dans la question de la crédulité, moi il y a quelque chose que je pense qu'il faut clarifier, parce que finalement on parle souvent de crédulité, on dit les gens par défaut croient ce qui est, enfin les gens sont, on est trop crédules, dès qu'on nous dit quelque chose on le croit, c'est d'ailleurs le ressort des rumeurs, de tout un tas de la circulation des fausses informations, les gens n'ont pas d'esprit critique, blablabla. En même temps, ce sont les mêmes, donc la dynamique de la crédulité et de la défiance, elle est souvent assez perverse, parce qu'on va souvent en appeler à l'esprit critique, à la remise en doute de ce qu'on nous dit, pour finalement parfois avancer des théories complètement farfelues, du type certaines théories du complot. Et en fait, ce que je voudrais souligner, c'est que dans toutes ces occurrences, on parle de crédulité, on parle de croyance, et qu'en fait c'est pas, enfin, ce que veut dire croire quelque chose n'est pas du tout trivial et n'est pas du tout univoque. Et en fait, entre être prête à me déclarer sceptique sur tel ou tel point et être prête à agir en conséquence. Alors, je ne sais pas s'il faut prendre les vaccins comme exemple.
On peut prendre les vaccins parce que c'est dans l'actualité.
Bien sûr, non, mais c'est peut-être pas le meilleur exemple de ce que je veux dire, parce que je pense que là, effectivement, le passage à l'action est extrêmement problématique. Mais quand on, par exemple, quand on s'étonne ou quand on met en avant ce que croient les gens ou ce que, au fond, il faudrait savoir ce que ça veut dire. Est-ce que c'est ce qu'ils se déclarent prêts à croire? Est-ce que c'est ce qu'ils prétendent remettre en doute, mais peut-être simplement pour prétendre le remettre en doute, mais est-ce qu'ils fonderaient leur décision sur ces croyances qu'on peut trouver absurdes? Enfin, voilà,
ouais,
à mon avis,
c'est un peu le casse-tête. C'est un peu le casse-tête du sondeur et de l'enquêteur, Jérôme Fourquet, ce que vient d'exprimer Marion Worms. Et aussi, c'est cette limite très, très compliquée. Par exemple, prenons l'exemple des vaccins, en effet, puis comme nous y invite Marion Worms, puisque la limite entre le doute raisonnable et le scepticisme indu, notamment sur des vaccins dits à ARN messager, c'est-à-dire des tout nouveaux vaccins, elle est très flou, cette limite.
Effectivement, plus, alors si on remonte à un épisode précédent, la défiance vis-à-vis de la parole publique a quand même été renforcée dans cette crise. On a dit que les Français, grosso modo et globalement, se conformaient aux règles, mais souvent par principe de précaution individuelle et peut-être aussi par sens des responsabilités vis-à-vis de leurs proches. Mais la confiance dans le crédit dans la parole publique a été, alors qu'on n'en avait pas besoin, très fortement malmenée avec cette affaire des masques. Et donc, nous sommes maintenant avec cette toile de fond pour aborder la phase de vaccination. Et donc,
dans un pays, rappelons-le, qui déjà, la France est assez rétif à la vaccination.
Voilà, donc on a en gros un quart de la population qui, même avant le Covid, était très... on va appeler ça vaccino-sceptique ou anti-vax, de manière plus ou moins argumentée. Et nous avons maintenant une autre partie de la population qui doit peser au bas mot la même proportion, qui dans le contexte actuel du Covid, après la polémique sur les masques, après aussi les informations sur le caractère très innovant des nouveaux vaccins qui sont proposés. Après, la très grande vitesse avec laquelle ils ont été développés, là encore, on revient sur le développement d'une certaine culture scientifique médicale dans la population.
Oui, c'est-à-dire qu'on nous a expliqué au tout début que ça mettrait 10 ans de faire un vaccin, et puis tout d'un coup, on les a en quelques mois. Oui.
Et donc, à côté des militants, j'allais dire purs et durs, qui sont anti-vax, on a une part de la population très importante qui, là encore, s'applique un espèce de principe de précaution et qui va attendre, avant d'y aller, de voir comment ça évolue, encore une fois, notamment dans les pays étrangers. Et donc tout ça aboutit au fait qu'on a à peu près 50% de la population qui aujourd'hui, dans nos enquêtes, nous disent à date qu'ils ne sont pas très chauds pour se faire vacciner, avec encore une fois des degrés dans cette chaleur.
Rappelons malgré tout que la rapidité à laquelle ont été trouvés ces vaccins tient à l'effort qui a été fourni,
hors du commun,
qui a été assez hors du commun comme vous venez de le dire, et que ce vaccin ARN messager, c'est pas une découverte du mois dernier, hein, ça fait très longtemps que les scientifiques travaillent dessus. Vous vouliez réagir, je crois, Albert Augien.
Ah oui, écoutez, je pense que on verra, hein, c'est encore une fois l'épreuve de réalité qui va donner la solution. J'avais entendu un commentateur à la télévision ou un journaliste à la télévision qui disait « Oh, avec les Français, c'est très très simple, il suffit de dire qu'il n'y en aura pas pour tout le monde pour que tout le monde vienne vouloir se faire vacciner les premiers ». Écoutez, on verra si cette prédiction marchera. Mais ce que vous avez dit jusqu'à présent, je pense qu'il faut aussi le rappeler. C'est-à-dire, c'est pas une découverte du matin. C'est-à-dire, quand on dit ça a mis 10 mois, en fait, ce type de vaccin a été expérimenté déjà. Il est connu depuis une dizaine d'années. Il est mis en place pour d'autres maladies. Bon, il y a une innovation qui se fait en déplaçant ce genre de vaccin vers le Covid. Aussi, si on considère qu'il y a une acculturation des Français et des autres d'ailleurs populations mondiales à la science, je pense que c'est très très compréhensible aujourd'hui, ça aussi. Donc je fais pas d'inquiétude spéciale au sujet d'un quelconque refus. Et puis il y aura aussi cette question de la temporalité, c'est-à-dire que est-ce que la lassitude de vivre dans une situation incertaine ne va pas porter les gens à se dire bon ben voilà, on voit que, comme disait François Fourquet, on voit que ça marche ailleurs, on voit pas pourquoi ça marcherait pas chez nous, et donc comme on en a assez, ben voilà, vaccinons-nous.
France Culture, le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
Carmen Maria Vega qui reprend le titre inoubliable, évidemment, du Serpent K dans le Livre de la Jungle sur l'album We Love Disney. C'est Noël. Il faut parler, évidemment, de la magie de Noël et donc de Disney. Tout ça est lié. On parle ce soir dans le temps du débat du samedi de cette question face aux restrictions. La désobéissance est-elle en train de monter? Et on en parle avec Marion Worms qui est philosophe, Albert Augien qui est sociologue et Jérôme Fourquet qui est analyste politique et directeur du département opinion de l'IFOP. Et justement, Jérôme Fourquet, sur cette question finalement du doute ou pas vis-à-vis du vaccin dont on parlait, plus généralement à ce moment-là de la conversation, cette articulation entre confiance dans les institutions et obéissance. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la situation qui est la nôtre? Finalement, ce que vous nous dites, c'est on peut décorréler l'état de de défiance qui existait vis-à-vis des institutions de cette situation du Covid, parce que finalement ce qui se joue là, c'est une question individuelle de rapport évidemment à la vie, à la mort, au fait de pouvoir contaminer ou non son prochain.
Oui, effectivement, et donc ce que disait monsieur Augier tout à l'heure sur
Augier,
excusez-moi.
Bah, il vous a donné un mauvais prénom, non, vous avez écorché son nom.
Je m'en excuse. Sur le fait qu'on ne désobéissait pas au virus. Et donc, il y a bien évidemment dans toute cette affaire qu'il s'agisse du respect des gestes barrières, de l'adhésion à la campagne de vaccination, une question de rapport aux institutions et au gouvernement. Mais derrière tout ça, ce qui surdétermine tout quand même, c'est l'inquiétude qui continue d'être très forte dans la population vis-à-vis du virus. De ce point de vue-là, et sans épiloguer trop longtemps dessus, parce que ça a déjà été fait ces dernières 24 heures, le fait que le président de la République lui-même ait contracté le virus, alors que dans l'imaginaire collectif, on se dit que s'il y a bien une personne qui doit être dans une bulle très protégée...
Bah, lui-même l'a dit dans sa vidéo, voilà. Il a dit « si même moi qui suis très protégé, donc, je le contracte, c'est bien que c'est un virus... »
Et donc ça, je pense, ça a quand même marqué les esprits. De la même manière, dans certains courants d'opinion qui étaient plus volontiers penchés et enclins à être dans la défiance, dans la confrontation vis-à-vis du pouvoir en place, le fait que très précocement, des leaders politiques comme Boris Johnson en Grande-Bretagne, Donald Trump aux États-Unis ou Jair Bolsonaro au Brésil aient contracté eux aussi le virus et l'aient salement attrapé, si je puis dire, tout ça a quand même fait réfléchir et a infusé dans la société, notamment, encore une fois, dans les courants d'opinion qui étaient les plus facilement sceptiques. Et donc, on n'a pas eu de discours politique très structuré qui est émergé en France vis-à-vis d'une opposition politique. Vous rappeliez tout à l'heure qu'il y avait eu des manifestations importantes en Allemagne de la part des anti-masques.
Anti-masques, oui.
On n'en a pas vu ou très très peu en France. Aux États-Unis, on a eu, là, sur le vaccin,
oui,
aussi...
Une vraie politisation
avec des États républicains, des États démocrates qui adoptaient des politiques sanitaires radicalement opposées. En France, comme il a été rappelé, on a eu des débats sur est-ce qu'on a déconfiné trop tôt, trop tard ? Est-ce que tel secteur d'activité est à considérer comme étant un secteur essentiel ou non ? Mais sur la philosophie générale, si je peux parler de philosophie alors qu'on est avec une philosophe, est-ce que il n'y a pas eu de vrai débat politique là-dessus ?
Marion Worms, sur la question que vient d'évoquer Jérôme Fourquet, et peut-être aussi pour rappeler cette distinction, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, mais on vous a pas entendu, entre doute raisonnable et scepticisme indu.
Oui, effectivement, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, il me semble que il faut reconnaître que la frontière est difficile à tracer entre, pour reprendre ces termes-là qui sont effectivement entre doute raisonnable et sceptique.
Je vous les ai empruntés, ces termes. Hein,
vous avez bien fait. Je vous en remercie. Mais effectivement, selon le contexte dans lequel on est, selon l'enjeu de la décision, selon les informations dont on dispose. Il peut être parfaitement raisonnable de douter de quelque chose, de douter d'une hypothèse, même si elle est apparemment très bien confirmée. J'aime bien prendre cet exemple-là qui nous sort tout à fait de ce contexte de la discussion dans laquelle on est. Mais si vous prenez le juré au tribunal qui doit prononcer la culpabilité d'un accusé, il aura raison de douter même des preuves les plus frappantes et les plus... quand bien même l'accusation a réuni un nombre de preuves très, très importantes et très accablantes, le juré, prenons le fameux huitième juré dans 12 hommes en colère, qui est incarné par Henri Fonda dans le film de ce nom, il a raison son doute, quand bien même il pourrait apparaître d'un autre point de vue parfaitement déraisonnable, est raisonnable. Et il est raisonnable pourquoi ? Parce que l'enjeu est énorme, parce que l'enjeu derrière, c'est la vie d'un homme. Inversement, dans une situation... on en revient toujours à une question de calcul bénéfice-risque. Quelles sont les conséquences possibles d'une erreur dans un sens ou dans l'autre ? Est-ce qu'il vaut mieux risquer de me tromper en croyant ceci, ou est-ce qu'il vaut mieux risquer de me tromper en rejetant ceci ? Et en fait, dans le cas, typiquement, des vaccins, mais de tout un tas de décisions qu'on doit prendre dans la crise actuelle. Encore une fois, je reviens à la question des valeurs que j'évoquais tout à l'heure. Les valeurs en jeu, les plus et les moins, les coûts et les bénéfices, sont sur des plans tellement différents les uns des autres et sont tellement compliqués à établir que bien malin est celui qui pourra dire ça c'est déraisonnable et ça c'est raisonnable. Mais
alors justement, quand on est un dirigeant politique et qu'on doit mener une politique publique et une politique de santé publique, et forcément on n'aime pas trop laisser aux individus, en tout cas en France, manifestement la possibilité d'exercer ce doute raisonnable, et on sort le bâton comme Jean Castex.
Je remercie très sincèrement l'immense majorité des Françaises et des Français qui respectent les règles communes. Mais nous constatons dans certaines zones ou parties du territoire un respect encore insuffisant de ces règles. Après une première phase de nécessaire pédagogie, j'ai donné au ministre de l'Intérieur des consignes de fermeté et lui ai demandé d'accroître encore la mobilisation des forces de l'ordre, notamment à Paris, en Île-de-France et dans les grandes métropoles. Depuis le 30 octobre, les forces de police et de gendarmerie ont procédé à près de 581 000 contrôles qui ont donné lieu à 88 455 verbalisations, dont environ 300 concernent l'ouverture irrégulière d'établissements recevant du public. Au-delà des contrôles, j'en appelle au civisme, par le respect de ces règles, vous le savez, uniquement destinées à protéger notre santé.
Et oui, l'approche punitive, Jérôme Fourquet, qui est celle du gouvernement, lui a beaucoup été reprochée. Là, c'était le Premier ministre Jean Castex. On aurait pu passer tout aussi bien un son de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Et on a beaucoup parlé d'une forme d'infantilisation des Français. Et donc, ma question, je pense, c'est de savoir en quoi c'est dû, selon vous, encore une fois, à quelque chose de structurel à la France, à une méfiance peut-être des fameux Gaulois réfractaires, ou vis-à-vis des Gaulois réfractaires de la part du pouvoir, ou est-ce que c'est aussi cette situation qui est tellement incertaine que ça oblige un petit peu à sévir, comme le fait le gouvernement, Jérôme Fourquet ?
Alors, il y a sans doute des choses qui renvoient à notre culture nationale, culture historique, et notamment dans la relation que l'État central entretient avec les corps intermédiaires et avec la population. Je prendrai juste l'exemple, par exemple, de ces fameuses attestations que chacun doit remplir soi-même. Donc ça limite quand même un petit peu l'intérêt de la chose, avec toute une série de cases à cocher, votre date de naissance.
Bon, tout le monde les connaît maintenant, voilà, les attestations. Voilà. Ouais.
Et donc ça, c'est assez typiquement français.
On ne retrouve pas ça dans d'autres pays européens, vous voulez dire.
À ma connaissance, il y en a assez peu qui ont fait ça. Donc ça, c'est un signe quand même assez manifeste d'une défiance, pour le coup, de l'appareil d'État vis-à-vis de sa population. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on écoute Jean Castex, il ne peut pas faire autrement que d'en appeler à une certaine rigueur et à montrer et à un peu entretenir la peur du gendarme, parce qu'il y a la peur du virus qui a été très efficace, mais on peut lui adjoindre la peur du gendarme. Cela étant dit, il nous explique qu'il n'y a eu que 300 contraventions pour des lieux recevant du public qui ont été indûment ouverts. 300 sur le territoire national, comme on disait tout à l'heure dans la discussion, c'est quand même très très peu. Il y a une grande responsabilité de nos concitoyens, et notamment des professionnels qui risquent gros dans cette affaire, parce que c'est pas qu'une amende, à mon avis, si votre établissement...
Il y a des fermetures administratives,
qui peuvent tomber. Donc le gouvernement est un peu sur une ligne de crête, sachant que on a beaucoup entendu, parce qu'on fait parler souvent les gens à leur place, que les Français en avaient ras-le-bol. C'est vrai qu'ils en ont ras-le-bol de cette situation, mais ils ont aussi peur. Et donc quand nous on les sonde, il y a encore trois semaines avant les dernières annonces gouvernementales et celles du président de la République, eh bien il y avait la moitié des Français qui étaient favorables à ce qu'on durcisse les conditions de circulation et d'application des mesures, peut-être dans l'espoir de sauver les fêtes de fin d'année. Donc il n'y a pas de caractère univoque de la population. Et encore une fois, je pense que on est sur une période très particulière où la donnée centrale, c'est quand même le rapport au virus et la peur qu'il instille dans la population.
Albert Ogier, sur cette question de la punition qui est mise en place, et peut-être ce que disait Jérôme Fourquet sur forme de centralisation du pouvoir en France, de verticalité.
Oui, sur la culture répressive de la France, je ne ferai que joindre ma voix à celle de Jérôme Fourquet. Il y a quelque chose d'assez particulier dans le rapport entre la police et les citoyens qui n'est pas résolu du tout, qui demande d'ailleurs et qui a, pendant cette crise, a demandé à être résolu, puisqu'il devrait y avoir un Beauvau de la police. Bon, donc ça, il n'y a pas de souci, mais en même temps, comme vous l'avez dit, il va y avoir la greffe du zèle des gendarmes, donc on peut toujours envoyer le gros bâton, mais si de l'autre côté du bâton, il n'y a personne pour verbaliser, ça va rendre les choses un peu compliquées. Et autre chose, c'est le rapport que apparemment on sent, alors je suis pas sondeur, mais enfin apparemment on sent ça, où les gens disent, bon, de toute façon, on va déconner pendant les fêtes de Noël, donc on aura la troisième vague, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On a envie un peu de se détendre, voilà. Et les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année, c'est sacré. Et donc, on peut, comment dire, pour, voilà, du point de vue du sociologue de la déviance que je peux être, dire que on a beau faire des lois, souvent ces lois ne sont pas vraiment appliquées, sinon il n'y aurait pas non plus la police qui essaierait de les faire appliquer. Donc il y a un jugement qui est porté par les personnes qui, elles-mêmes, disons, se mettent en contradiction avec elles-mêmes, c'est comme ça la condition humaine, en disant, bon ben voilà, je risque tout, mais il faut que je fasse ça, et je vais pas m'arrêter parce que je vais même craindre pour ma vie. Et donc voilà, on est dans cette période bien particulière des fêtes de fin d'année. Alors il y a déjà eu les vacances où il s'est passé la même chose. On a dit, bon, on va pas interdire les vacances aux gens qui ont souffert pendant 2 mois de confinement, avec l'idée que, bon, ça n'allait pas très très bien se passer. Bon, ça ne s'est pas très bien passé. Et voilà, les fêtes de fin d'année ont le même statut. Donc on a beau faire des lois, on a beau manier le gros bâton, c'est pas sûr que ça marche à tous les coups.
Un mot là-dessus, Jérôme Fourquet, sur cette forme de contradiction interne des Français qui disent tout le monde doit respecter les règles, mais individuellement qui disent on sait qu'on va pas les respecter forcément.
Oui, alors même en se mettant quand même des barrières, parce qu'il y a le risque que je prends pour moi-même, mais le risque que je fais courir à mes proches, et notamment ceux de générations plus âgées. Typiquement, dans le cadre des fêtes de fin d'année, ça se pose quand même. Et donc, nous, encore une fois, quand on a interrogé les Français, ils disaient ils nous déclaraient qu'ils feraient attention, qu'il y aurait du port du masque à la maison. C'est quand même, si on se replace un an en arrière, c'est quand même complètement inédit. Donc, il y a quand même ce phénomène qui a été intégré, même si, comme il a été rappelé, on a eu cette soupape cet été et on en a collectivement payé le prix.
Merci beaucoup, on arrive à la fin de cette émission. Merci Jérôme Fourquet, Albert Ogier et Marion Worms d'y avoir participé. Écoutez, on va voir ce que l'avenir nous réserve et si finalement cette question de la défiance et de la désobéissance était parfaitement conjoncturelle ou structurelle. On aura de nouveau l'occasion d'en parler. À la réalisation ce soir, c'était Vanessa Nadjar. À la prise de son, Baptiste Lénard. Merci à Sam Boutata pour sa collaboration. Lundi, c'est Chloé Cambrelin qui sera aux manettes du temps du débat et elle posera la question: peut-on survivre en politique sans être un ou une politique? Ça vous intéressera. Jérôme Fourquet, elle sera avec Édouard Martin, Étienne Aulion et Dominique Régnier. Mais avant cela, prochain rendez-vous avec un magazine d'actualité, c'est évidemment demain à 11h, l'Esprit public d'Émilie Aubry en direct, comme chaque semaine sous confinement, en direct de l'espace Cardin. Et elle posera ces deux questions: qui gagnera la course de l'après-Covid et un référendum pour le climat, écologique et ou tactique? Bon week-end à tous et à l'écoute de France Culture. Tout de suite, on retrouve Hervé Gardette pour Politique.